Quelle est la date de naissance de votre mari?
Le 9 novembre 1985.
A-t-il des tatouages?
Non.
Et ses yeux, de quelle couleur sont-ils?
Il a des yeux verts et des cheveux châtain clair. Et il a une calvitie bien visible en haut du crâne. Vous voyez? Elle est bien visible.
Et ça, vous pouvez me montrer? Sur la coque, c'est votre mari?
Oui, c'est mon mari.
Comme ça, il est toujours avec vous.
Oui, il est toujours avec moi.
Aujourd'hui, on ne se sépare plus de son téléphone. C'est très beau. Vous avez vécu longtemps ensemble?
3 ans. Pas tant que ça. On s'est mariés 12 jours avant la guerre.
Depuis quand est-il...
Il est porté disparu depuis le 16 janvier. Les 2 premiers mois, j'ai pratiquement pas dormi. Ils m'ont dit que mon mari était porté disparu. Et depuis, chaque jour, je me demande, il est vivant ou il est mort?
Vous venez d'entendre un extrait du film documentaire « Les fantômes de l'Ukraine » réalisé par Anne Poiret et qui était proposé dans la sélection en compétition des films de plus de 40 minutes lors de la 33e édition du FIGRA, Festival du Grand Reportage d'Actualité et du Documentaire de Société, et qui s'est déroulé du 30 mars au 4 avril à Douai. Le sujet « Angle mort de la guerre en Ukraine, les disparus sont une douleur » passé sous les radars médiatiques, civils enlevés dans les zones occupées, soldats engloutis par les combats et des dizaines de milliers de femmes recherchent un mari, un fils, un frère. Le film suit pendant 2 ans Ludmila, Ludeshka et Tetiana. Entre espoir et désespoir, elles harcèlent les administrations, consultent sans fin les réseaux sociaux et guettent chaque échange de prisonniers. Alors que le nombre de disparus atteint 73 000 au printemps 2025, l'Ukraine tente en pleine guerre de retrouver ses captifs et rapatrier ses morts. Mais voilà, la Russie, avec sa propagande, brouille les pistes. Pour en savoir plus, entretien avec la réalisatrice Anne Poiret. Mais avant de la retrouver en interview, je vous propose d'écouter quelques réactions d'élèves du lycée Fernand d'Archicourt d'Hénin-Beaumont, présent lors de la projection.
J'ai utilisé exactement le mot poignant pour dans notre fiche. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit totalement. J'ai l'impression que mon cœur a été serré pendant 1 heure et demie. C'était super assez perturbant parce que on n'en parle plus forcément parce que comme elle l'a dit, c'est plus médiatisé. Et là, c'est encore pire. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit absolument pas. Et franchement, c'était juste poignant, complètement poignant et très perturbant pour l'esprit. Parce qu'on a du mal à se mettre dans l'esprit des femmes et quand on s'y met, juste on pleure tout simplement. Parce que c'est inimaginable à ressentir.
Il y a ce témoignage très fort de Ludmila, qui elle cherche son mari et qui finalement s'engage en même temps dans la guerre parce qu'elle veut faire partie du groupe de recherche et finalement elle devient soldate.
Oui, ça, c'était quand même assez difficile à comprendre et même à ressentir.
Comment tu l'as vécu, ce portrait de cette dame qui est assez forte quand même?
En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle faisait ça, parce que c'était un risque pour elle, mais en même temps, ça montre un engagement immense de sa part et aussi un désespoir, mais en même temps, un espoir énorme. D'un côté, c'était les deux opposés en même temps. Ça m'a retourné le cerveau.
C'était très triste. J'ai failli pleurer. C'était très, comme on peut dire, c'était très poignant. Et c'était très intéressant aussi de voir comment les femmes ressentaient tout cela.
Et est-ce qu'il y a une scène particulière qui t'a marqué, toi?
Le moment où une femme a prié face à une photo de son mari.
Alors moi, je trouve très intéressant l'aspect qui a été montré à travers ce documentaire, puisqu'en fait, ce n'est pas forcément un aspect qu'on traite beaucoup. On regarde souvent le parti des soldats, etc. Mais la civilisation derrière, on ne le voit pas énormément. Et donc du coup, je trouve ça très intéressant, surtout que c'est un conflit qui est actuel. Donc nous, on connaît beaucoup des soldats, etc. Mais cet aspect civil, on ne l'a pas forcément. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de voir ce point de vue, parce qu'en fait, on se dit que les militaires souffrent, mais en fait, les populations souffrent aussi énormément. Et ça nous permet de nous rendre compte aujourd'hui de l'importance du conflit, en fait, autant sur les populations que sur les militaires.
Ouais, parce qu'il faut dire que dans ce film documentaire, il n'y a pas que des prisonniers de guerre, il y a aussi des civils qui sont aussi prisonniers. Il y a l'aspect aussi, un petit exemple de ce fameux Yuri qui rentre, qui est vivant et qui culpabilise parce que finalement, tout le monde lui reproche de ne pas encore être sur le front alors qu'il vient de rentrer.
Ça, je pense que c'est un aspect aussi très important parce qu'en fait, on fait beaucoup attention aux morts, mais en fait, on ne fait pas attention justement à ces personnes qui reviennent et en fait, qui vont avoir des répercussions toute leur vie. Et donc en fait, Yuri est un exemple vraiment... vraiment important qui illumine justement cet aspect puisque on se rend compte aussi de l'importance des effets psychologiques que ces soldats vont subir justement de la culpabilisation parce que nous on peut pas forcément comprendre cet aspect de culpabilisation mais c'est de pourquoi moi je reviens et pas forcément d'autres pourquoi les gens ne me reconnaissent pas alors qu'ils reconnaissent des gens qui ne sont plus voilà, alors que moi aussi j'ai contribué. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on n'arrive pas à se rendre compte à notre échelle, mais qui devraient justement être mis en valeur et qui a été très bien fait à travers ce documentaire.
Ce qui m'a étonnée, ça a été... C'était déjà l'angle de vue qui est totalement inhabituel puisque c'est vrai que c'est pas comme la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Là, on a encore évolué quand même, notamment avec l'ère du numérique. Là, c'est vrai qu'en même temps, c'est une aide, mais en même temps, ça les fait souffrir parce qu'elles sont... C'est comme si elles avaient un pied sur le champ de bataille, finalement, mais qu'elles ne voyaient jamais leurs siens, en fait. Elles ne voyaient jamais leurs proches. Donc, elles sont quand même à la recherche alors qu'elles ont aussi des informations. Donc, c'est ça qui est contradictoire. Je trouve que ça montre aussi à quel point c'est... une guerre, c'est complexe, autant pour ceux qui sont sur le front comme ceux qui sont à l'arrière, mais pour les deux côtés. Parce que là, tout à l'heure, du coup, la femme de France Télévisions, elle expliquait qu'aussi les Ukrainiens ont aussi des prisonniers russes. Donc en fait, finalement, dans les deux cas, en fait, tout le monde fait un peu du mal à l'autre et tout le monde souffre. Donc c'est facile pour personne. Mais en même temps, c'est des choix qu'ils sont obligés de prendre, mais qu'ils prennent aussi pour assurer aussi eux-mêmes leur sécurité. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez... C'est quand même un point de vue... Je ne vais pas dire original, mais c'est un point de vue qui fait voir les choses autrement aussi.
Les disparus sont un angle mort de la guerre en Ukraine. Une douleur passée sous les radars médiatiques. Ces civils capturés par la Russie dans les territoires occupés, ou ces soldats engloutis dans l'enfer des combats, hantent pourtant à l'arrière du front toute la société ukrainienne. Ce sont des femmes, par dizaines de milliers, qui cherchent un compagnon, un fils, un frère.
On retrouve à présent la réalisatrice Anne Poiret en interview à l'issue de la séance publique. Anne Poiret, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'était déjà rencontrés sur une autre édition du FIGRA pour Ukraine, chronique d'une mort annoncée. Et là, vous récidivez pour cette 33e édition avec les fantômes de l'Ukraine. D'abord, pouvez-vous nous parler un petit peu de comment vous êtes allé sur le terrain, comment ça s'est passé avec toutes ces femmes qui témoignent?
La particularité du tournage des fantômes de l'Ukraine, qui était diffusé en novembre dernier sur France Télévisions, c'est que c'est un tournage qui s'est étalé sur 2 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé à tourner en juillet 2023. Avec l'idée, au départ, moi j'ai un peu cherché la forme de ce film. On pensait que peut-être on irait en Ukraine, puis en Irak, puis en Colombie pour raconter un peu les différentes étapes des disparitions, en fait, les différentes étapes des conflits, parce que les gens disparaissent en Ukraine. Mais dans tous les pays en après-guerre, on continue à chercher ces disparus, parfois 40, 50 ans après. Finalement, on a décidé de se concentrer sur l'Ukraine, mais on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord que le sujet c'était les femmes, que c'était les femmes qui cherchent les disparus. C'était vraiment c'était une problématique qui est très genrée, en fait, la question des disparus. C'est que des femmes qui cherchent, les épouses, les mères, les filles, les tantes. et qu'il allait falloir que le temps passe. Parce que justement, la question de la disparition, ce qui rend dingue les gens et les familles et les femmes, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'il n'y a pas de réponse et qu'il ne se passe rien. Et donc, pour que d'un point de vue narratif, on ait quand même quelque chose qui avance, il fallait que le temps passe et qu'on puisse avoir des réponses, parce qu'en Ukraine, il y a des réponses, parce que les prisonniers sont échangés, parce que parfois, il y a des gens qu'on retrouve dans des vidéos, que parfois, il y a beaucoup de corps qui sont rendus, beaucoup de corps qui sont retrouvés, qu'il y a énormément de tests ADN qui sont faits, donc parfois, il y a des matchs, et que parfois, les femmes récupèrent des corps, et que parfois, voilà, et il y a des femmes aussi qui ont des parcours très singuliers, comme on a pu suivre dans le film, qui vont jusqu'à se rendre sur la ligne de front pour se rapprocher finalement du lieu de la disparition.
Bah oui, bah justement, on parle du cas de Ludmila, donc qui recherche son mari, mais en même temps qui décide d'aller sur le front pour participer à un groupe de recherche. Finalement, ça se passe pas très bien pour elle parce qu'elle a été blessée, etc. C'est quand même un parcours assez atypique.
Oui, c'est une histoire folle, l'histoire de Ludmila. On l'a suivie. C'est une femme extrêmement. Elle a un parcours complètement atypique, parce que c'est une femme qui est très religieuse, qui est très spirituelle, qui suit la religion Krishna. Voilà, elle est très pacifiste, vraiment profondément. Et donc le terme d'un tel état de désespoir, de ne rien pouvoir faire, de ne pas avoir de réponse. Et c'est vrai que ça rend fou, en fait, d'avoir le sentiment qu'on est impuissant, en fait. Donc souvent, ces femmes s'organisent, manifestent. Elle avait commencé à rendre visite aux blessés dans les hôpitaux pour se rendre utile, pour se sentir utile. Et puis c'est vrai qu'elle harcelait cette unité qui recherche des corps dans les endroits qui ont été libérés ou dans les endroits à l'arrière du front, pour participer à ces recherches, pour se sentir utile et peut-être le jour où Bakhmout serait libéré, pouvoir participer aux recherches. Et en fait, quand on y est retourné, donc on avait tourné en juillet avec elle, on y est retourné en juin, et quand j'ai recommencé la prépa, j'étais en lien toute l'année avec elle, je savais qu'elle allait dans les hôpitaux, et quand en mai, je lui ai dit « ça y est, Ludmila, on a l'argent, on peut revenir pour cette deuxième session de tournage au mois de juin », elle m'a dit « mais je ne suis plus du tout à Kiev, je suis dans le Donbass, je suis sur le front, je me suis engagée ». Et moi, je suis complètement tombée des nues, parce que vraiment, si la dernière personne que j'imaginais capable de prendre des armes, c'était elle. Et donc, effectivement, malheureusement, deux mois plus tard, elle est blessée, mais en réalité, elle a une chance folle d'être encore en vie, parce qu'elle n'est absolument pas préparée pour la guerre. Elle a une formation très légère et elle est envoyée dans un des endroits les plus meurtriers du Donbass. Donc, pendant des semaines, on a tremblé avec l'équipe, avec ses amis, qu'elle ne revienne pas du tout, quoi. Donc, finalement, au mois de juillet, j'étais en vacances, j'ai reçu un texto de sa part qui me disait « je suis blessée, mais je suis vivante, elle était vivante, voilà. Et elle était capable d'écrire, donc. Et donc après, pendant des mois, elle n'a pas été du tout capable de communiquer. Et quand on est retourné, elle avait été démobilisée, elle était sortie, elle avait été opérée à de multiples reprises. Elle était en état de nous revoir et elle avait fait pas mal de chemin, effectivement, parce qu'elle a compris ce que c'était la guerre et elle a compris ce que ça voulait dire, ces mots, hein, que quand quelqu'un disparaît, finalement, c'est qu'il est mort et qu'on ne retrouve pas. Donc, comme elle sait ce que ça veut dire de disparaître d'un des conflits dans des endroits les plus meurtriers du Donbass, elle sait que le corps, on ne les retrouve pas, en fait. Donc, elle avait fait tout ce chemin-là via son expérience sur le front.
Alors, j'ai fait une petite interview avec des élèves aussi qui étaient présents dans la salle. La réponse qu'ils me donnent, en fait, à chaque fois, c'est « mais c'est incroyable, parce que ces femmes qui ne sont pas concernées par la guerre, mais qui recherchent leurs disparus, elles traversent aussi ce conflit, mais elles sont scotchées sur Instagram, etc., pour rechercher. Donc, en fait, elles vivent la guerre, mais à leur niveau. »
Oui, c'est absolument ça. Alors, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Tout au long du tournage, au mois de juillet, quand on allait à Kiev, donc on est assez loin de la guerre, en juillet 2023, hein, les combats sont loin quand même, vraiment à des centaines de kilomètres. Donc, effectivement, la guerre est sur les smartphones et la guerre, elles ne la vivent pas dans leur corps, mais en fait, elles la vivent tous les jours. Elles la vivent psychologiquement. La société entière est tournée autour de la guerre. Donc, ça peut paraître impalpable et parfois, ça peut paraître choquant parce qu'on imagine que Kiev est détruite, alors que c'est une société qui, en apparence, fonctionne comme la nôtre. En réalité, toutes les couches sociales, tous les gens sont impactés par ce conflit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au fur et à mesure de nos tournages, il s'est passé que la guerre des drones est devenue quelque chose d'extraordinairement concrète. et que quand on y retournait il y a un an, en fait, vous avez des attaques toutes les nuits. Donc les gens ne dorment pas, ces femmes ne dorment pas. Tatiana, qui est dans le film quelques semaines après notre dernier tournage, son immeuble a été visé par une ferme de drones, toutes ses vitres ont explosé. Donc en fait, la guerre s'est quand même considérablement rapprochée de toutes ces femmes. Elle n'est plus du tout cantonnée au front comme elle l'a pu l'être à une époque.
Et puis il y a ce portrait aussi, je crois que c'est le seul portrait masculin de Yuri, qui vient d'arriver dans ce centre de réhabilitation pour prisonniers de guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre ?
Oui, on a eu beaucoup de chance en juillet 2023. L'état-major, les gens qui s'occupent des prisonniers de guerre et leur retour nous ont laissé rentrer dans ce centre, ce qui n'est pas commun. Surtout, il y avait parmi les gens qui étaient revenus quelques jours avant... une poignée d'hommes, dont Yuri, qui avait été porté disparu. Parce que c'est ça le grand, ce qui porte toute cette femme qui cherche, c'est qu'il y a des hommes comme Yuri, même s'il y en a très peu, qui sont disparus pendant des mois, qui sont complètement disparus, c'est-à-dire là, pendant sa mère, elle n'a pas eu de nouvelles de lui pendant un an. Elle ne savait absolument pas ce qui lui était arrivé, s'il était vivant, s'il était mort, il n'y avait aucune image qui filtrait. Et au bout d'un an, son nom est apparu sur une liste du CICR, et deux mois plus tard, il a été échangé. Ce qui est assez rare, en réalité, c'est ces deux choses-là, qu'on soit libéré aussi vite et qu'on soit disparu pendant un an et qu'on apparaisse et qu'on sorte. C'est un parcours. Mais c'est ces parcours-là qui font que toutes les femmes se disent « mon mari, c'est possible aussi, finalement. J'ai pas de nouvelles depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans. Mais peut-être qu'il fait partie de ces hommes que la Russie garde sans donner les noms, sans révéler les noms, mais qui va réapparaître un jour. » Et donc Yuri, il revient, il est... Alors nous, on avait l'impression qu'il n'était pas trop abîmé, qu'il n'avait pas physiquement. En réalité, quand on l'a recroisé un an plus tard, on a compris à quel point il avait maigri, parce que ce n'était pas du tout son visage, en fait, qu'on avait rencontré la première fois. Mais c'était aussi des blessures complètement invisibles qu'il met en mots en disant « ça fait déjà 10 jours qu'il est là, il ne veut toujours pas que sa mère vienne parce qu'il ne se sent pas psychiquement capable de lui faire face, qu'il ne veut pas qu'il la voie dans cet état ». Donc en fait, cet état n'a l'air de rien, mais cet état fait que psychiquement, il n'en est pas capable. Et donc voilà, c'était une rencontre très forte et surtout, il a accepté qu'on le retrouve un an plus tard. Et c'était, d'abord, on l'a à moitié reconnu, parce qu'en effet, son vrai visage était beaucoup plus épanoui. Normalement, il est beaucoup plus épais, quelque part, et la détention l'avait considérablement amaigri. Mais aussi, on a mesuré à quel point il était toujours très instable. Et à nouveau, ça ne se voyait pas vraiment. Mais au bout d'une heure d'interview, par exemple, à un moment donné, il est devenu blanc. Il a dit « Je suis désolée, je vais vous laisser, je vais remonter chez moi pour me reposer ». Et en fait, il n'a plus jamais donné de... Il nous a dit « Je ne suis plus du tout en état de vous parler ». Donc en fait, c'est pas très palpable, mais en fait, c'est des gens qui sont profondément traumatisés.
Il y a aussi ce fameux commissariat aux disparus qui aide aussi les gens. C'est important, c'est une institution quand même. Et donc du coup, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce fameux commissariat ?
Oui, l'Ukraine a compris. Encore une fois, ils font des choses comme s'ils étaient en après-guerre. Ils font ça avec la justice aussi, la justice des crimes de guerre. Ils les documentent d'une manière où ils ont compris l'intérêt politique de le faire de façon très sérieuse, y compris pendant le conflit. Et pour les disparus, c'est pareil. Normalement, les États s'occupent des disparus et s'adressent aux femmes qui les cherchent après les conflits. Eux, ils ont compris que c'était d'abord une exigence humanitaire, mais aussi qu'il y avait un enjeu politique, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas laisser autant de femmes à l'arrière du front s'énerver sans réponse et qu'au moins, il y a quelqu'un qui leur fasse face et qu'ils répondent à des questions, même si souvent, on le voit dans le film, ils n'ont pas de réponse. En fait, ils n'ont pas de réponse, mais au moins ils les écoutent. Il est à leur service, il est très humble. Il répond, et parfois quand même il dénoue des petites choses qui sont de l'incompréhension. Mais la plupart du temps, il ne peut rien faire parce qu'il ne peut que accompagner ces femmes. Mais c'est déjà énorme. Tenir des listes à jour avec les noms, ça a l'air de rien, mais quand on s'intéresse, moi je me suis beaucoup intéressée aux disparus de guerre en général. Donc, j'ai beaucoup parlé avec le CICR ou des organisations qui font ça dans le monde. Le simple fait de faire une liste de disparus, ça dénote un état de droit, ça dénote un état extrêmement costaud qui est capable de tenir à jour une liste administrativement parlant. Il y a beaucoup de pays, en Irak, il n'y a pas de liste par exemple, il n'y a pas de liste de disparus. On estime qu'il y a 250 000 disparus, mais il y a des listes qui sont extrêmement incomplètes parce qu'elles sont d'abord très politiques, on ne compte pas les disparus de nos ennemis, où les états civils sont mélangés, foireux, compliqués, redondants, avec beaucoup d'erreurs. Donc ça dénote quelque chose. Il faut des moyens, il faut un état vaillant, il faut un état construit, rien que pour faire cette liste-là. Ensuite, l'Ukraine et la Russie échangent des prisonniers, c'est complètement inédit dans des guerres. En nombre, ils échangent beaucoup de monde. Et ils échangent aussi des corps. Et Arthur de Brosserdorf, il sert aussi à ça. Il sert à accompagner les corps qui reviennent, à s'assurer qu'ils vont dans les bonnes morgues, à s'assurer que les process... ils sont équipés en institut médico-légal. Ils sont pas assez financés, ils sont pas assez formés, mais ils sont... Il n'y a pas rien. Je veux dire, il y a vraiment une structure qui fonctionne. Après, ils n'ont pas assez de moyens. Et surtout, à l'avenir, ils n'auront pas assez de moyens. Et parce que c'est extraordinairement long, extraordinairement compliqué de trouver des disparus, de mettre les noms en face des corps, de faire des tests ADN qui sont crédibles, de chercher des corps dans des décombres. Tout ça demande énormément de temps et de moyens.
Parce que, le travail des médecins légistes aussi qui analysent et qui reçoivent les corps, c'était pas évident et c'est montré aussi dans le documentaire. Il faut savoir aussi que il n'y a pas que les militaires sur le front qui sont concernés par ces disparitions, mais aussi les civils.
Absolument. Dans le film, on mélange deux catégories qui sont juridiquement complètement différentes, qui sont les missing in action, les soldats qui disparaissent sur le front. Il y a eu un combat, une frappe d'artillerie, un bombardement, et on n'a plus de nouvelles de tel ou tel soldat. Ça, c'est missing in action, c'est un disparu de guerre. Et puis vous avez, de l'autre côté de la guerre, les civils qui sont enlevés dans des zones qui ont été conquises par les Russes, soit parce que, pour une suspicion, soit parce qu'elles ont protesté contre cette invasion, et elles sont arrêtées, détenues, kidnappées, en tout cas mises en prison, et plus personne n'a de nouvelles. Ce qu'on appelle la disparition forcée. Et ça, c'est quelque chose qui est considéré comme un crime de guerre, qui est considéré comme vraiment une catégorie à part, parce que ce qui est très particulier, c'est que les familles, quand elles vont chercher ces gens, se mettent en risque de disparaître à leur tour, et donc ne le font pas. Ou alors le font et disparaissent elles-mêmes, et entraînent des chaînes comme ça de disparition dans des familles. Et ça, c'est vraiment une catégorie à part, qui concerne les civils. Mais finalement, dans le film, on a entre guillemets mélangé, parce que pour les femmes, ça ne change pas grand-chose. Pour les femmes, elles n'ont pas de nouvelles. Elles cherchent leurs hommes, elles cherchent leur famille. Parfois, c'est des femmes qui disparaissent, des civils qui disparaissent. Et elles ont besoin de réponses. Et elles ont besoin que l'État se préoccupe de leur sort, essaye de leur apporter des réponses qu'on cherche et qu'elles aient des réponses.
Il y a une phrase qui reflète un petit peu cette réalité. Elle passe du désespoir à l'espoir.
C'est ça, la disparition, c'est que comme vous n'avez pas de preuve de la mort de la personne que vous aimez, que ce soit votre fille, votre fils, votre mère, votre père, votre mari, si vous cessez de la chercher, si vous considérez qu'il est mort, finalement, c'est vous qui tuez cette personne. C'est vous qui dites qu'elle est morte. Mais tant qu'on n'a pas le corps, ils ne sont pas morts. Et donc, les gens du CICR nous l'expliquaient très bien. Ils nous disaient que c'est souvent des femmes qu'il faut accompagner parce que le soir, elles se disent « Bon, ok, ils sont morts, j'arrête. Ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans. » Puis le matin, elles se disent « Mais non, en fait, je ne peux pas. » Et en fait, notamment les mères, elles ne peuvent pas prendre la décision, elles, qui sont morts. Donc en fait, ils ne cessent pas de chercher. Et après, tout est bon. Tout est un signe, un échange, la prévision d'un échange, quelqu'un qui a vu une vidéo. Ce que je racontais un peu après la projection, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques avec des gens horribles qui profitent de ça et de cette ultra d'extrême vulnérabilité pour finalement contacter ces familles, contacter ces femmes et leur dire « Mais si, ce disparu, moi je l'ai vu. » Il est dans telle prison, il a besoin, en Syrie il y a eu ça énormément, il a besoin de soins, ou si vous nous donnez tel tant d'argent, on pourra corrompre telle personne et il pourra disparaître. Et donc il y a énormément de gens comme ça qui tombent dans ces arnaques, et c'est partout dans le monde. Quand il y a des disparus, il y a ces vautours en fait, qui viennent essayer de profiter de cette attente de ces femmes et de cet espoir en fait, qu'elles gardent.
Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez des nouvelles de toutes ces femmes justement? Est-ce que ça, il y en a? Bon, on sait, le résultat, il y en a, bon, ils ont découvert que leur mari était mort, notamment, je pense que c'est Ludeshka, si je ne me trompe pas. Et les autres?
Alors, je suis toujours en contact avec ces femmes. On a organisé pour elles une projection à Kiev au mois de janvier pour qu'elles soient ensemble, pour qu'elles le voient en ukrainien, dans de bonnes conditions. Donc, moi, j'ai régulièrement des nouvelles. Alors, il ne se passe pas grand-chose. Ludmila, elle est toujours, elle a repris sa vie de civile, avec cette idée que quand même, elle n'aura pas le corps de son mari. C'est pas impossible qu'avec tous les corps qui rentrent et tout le processus d'identification, un jour, on lui dise on a l'ADN de votre mari, on a retrouvé le corps, il y a un match avec, en ce qui vous concerne cet homme, et qu'elle puisse récupérer le corps. C'est une possibilité. Elle a quand même vraiment posé le... En fait, elle est quand même vraiment complètement convaincue qu'il est mort. Mais quand vous parlez avec elle, il y a toujours un moment où elle dit mais... Bon, je continue à espérer. En fait, en réalité, non, mais elle ne peut pas... En fait, si elle dit il est mort, c'est elle qui le dit, en fait. Pour ce qui est de Tetiana, elle est... Donc, ça fait un an maintenant qu'elle a pu enterrer son mari, donc elle est dans autre chose maintenant. Elle est vraiment dans le processus de deuil, le fait de reconstruire sa vie sans lui. Et Ludeshka, donc son mari a été échangé une fois que le tournage était terminé. Donc lui, il est rentré. Il est resté dans ce centre où on a filmé Yuri pendant des mois. Il a pu aller le voir, bien sûr, avec ses enfants. Mais quand le film a été diffusé fin novembre, il venait seulement de rentrer complètement chez lui. Jusqu'à présent, il ne rentrait que de temps en temps le week-end. Et en fait, c'est un retour qui est très, très compliqué parce qu'il est manifestement psychiquement terriblement affecté. Donc les choses sont très complexes.
Et enfin, vous avez une actualité là? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Un autre documentaire bientôt, peut-être?
Alors moi, j'ai fondé une organisation qui s'appelle After War, parce que je m'intéresse donc à ce qui se passe après les conflits. Donc c'est une organisation qui produit des films. Donc je suis coproductrice de ce documentaire, d'un autre documentaire sur l'Irak qui s'intéresse au fait qu'on n'ait pas désarmé certaines milices chiites après la guerre contre Daesh. Ça s'appelait l'Irak sous emprise. Là, je lance un film... sur la Syrie, sur comment les cinéastes filment l'après Assad, en fait, comment on métabolise le conflit quand on est cinéaste comme ça, et qu'est-ce qu'on raconte de ce nouveau pays. Mais je suis aussi j'ai monté une collection chez Actes Sud qui s'appelle Les routes de l'après, pour que des chercheurs puissent raconter dans cette collection les après-guerres. Il y a un premier livre qui s'appelle Mostar, ceci n'est pas une ville, sur ce qui s'est passé après la guerre de Yougoslavie à Mostar. On a un livre en préparation sur la Syrie également. Et j'ai monté un consortium de journalistes entre l'Ukraine, la Bosnie et la France pour raconter comment les fake news impactent ces moments de guerre et d'après-guerre. Et donc comment est-ce que, en travaillant ensemble avec des journalistes, on essaye de raconter autrement ces récits autour des fake news pour... parce qu'évidemment, les fake news fleurissent pendant les conflits et après les conflits. Et donc, comment avec le reportage, on peut raconter d'autres histoires pour poser des pierres différentes. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important que les médias et que le public s'intéressent à ce qui se passe après une guerre. Parce qu'en fait, quand les armes s'arrêtent, se taisent, ça n'a rien à voir avec la paix, ce qui démarre, c'est l'après-guerre. Et c'est un moment très particulier, très gris, qu'il faut absolument continuer à raconter. Et malheureusement, nous, médias, on s'intéresse à la guerre parce que c'est tellement sidérant, que c'est tellement violent. Enfin, voilà, il y a cette violence, cette sidération, cet effroi qui fait qu'on se penche sur ce moment de violence. Mais qu'on oublie qu'aussi des guerres s'arrêtent et qu'après, il se passe plein de choses extrêmement importantes, extrêmement passionnantes. Donc, l'organisation que j'ai créée, After War, c'est vraiment cette idée de faire travailler des journalistes de ces pays-là, des chercheurs aussi, et de se mettre ensemble pour apporter cette information-là au public.
Où sont-ils, ces disparus? Avec l'explosion de leur nombre, l'Ukraine est aussi devenue un cas unique d'un État qui n'a pas attendu la fin de la guerre pour les rechercher, pour faire revenir ses prisonniers et échanger les morts avec l'ennemi. Mais pour toutes ces femmes, comment continuer à chercher ces absents en pleine guerre? Comment continuer à vivre parmi tous ces fantômes?
Reportage réalisé lors de la 33e édition du FIGRA, Festival du Grand Reportage d'Actualité et du Documentaire de Société, et qui s'est déroulé du 30 mars au 4 avril à Douai. C'était autour du film documentaire Les fantômes de l'Ukraine qui était proposé dans la sélection en compétition des films de plus de 40 minutes et qui a reçu d'ailleurs la mention spéciale du jury.